L'incendie des locaux de Plastinor à Pointe-Boute, deux jeunes de 18 et 19 ans doivent répondre de leurs actes devant le tribunal correctionnel. Des locaux flambant neufs pour la police municipale de Dumbéa, ils ont été inaugurés ce matin. La Calédonie peut-elle devenir un hub de données? Christopher Gigès a visité ce matin Data Service Pacifique du groupe SIPAC qui héberge plus de 500 sites internet calédoniens. En métropole, polémique autour de la jeune Gazaoui de 25 ans qui a publié des propos violemment antisémites. Elle avait intégré Sciences Po grâce à une bourse du consulat de France à Jérusalem. La natation est un sixième titre mondial pour Léon Marchand. Il a remporté le 200 mètres 4 nages au Mondiaux de Singapour. Le Calédonien Maxime Grousset a pris la 7e place de la finale du 100 mètres nage libre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi comme chaque vendredi par le magazine Transparence. Elisabeth Noir, bonjour.
Bonjour Jean-François.
Et votre invité sera aujourd'hui Alcide Ponga.
Oui, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et président du rassemblement qui est l'invité du magazine Transparence. Nous l'interrogerons sur les négociations de Bougival auxquelles il a participé et bien sûr sur les réactions que suscite ce projet d'accord. Nous l'interrogerons également sur les réformes mises en œuvre par le gouvernement et sur la politique régionale de la Nouvelle-Calédonie. On se retrouve donc d'ici une petite demi-heure en compagnie d'Alcide Ponga. Ce sera juste après votre journal.
Et l'autre rendez-vous du vendredi, ce sera à 16h45 pour le Club Politique Radio Rythme Bleu.
Au sommaire du Club Politique ce soir, le rejet par l'Union Calédonienne de l'accord de Bougival et les conséquences que cela peut avoir. Nous parlerons aussi des courriers et des déclarations du ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Et puis nous évoquerons enfin le recensement de la population de la Nouvelle-Calédonie. Les chiffres ont été rendus publics dans la semaine. Un club politique qui débute, comme tous les vendredis, à 16h45.
L'accord de Bougival, qui était aussi à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale de l'Association Française des Maires, qui se réunissait hier à Kouaoua. Le président de l'association, Pascal Vittori, qui est signataire de l'accord, a informé ses collègues sur le déroulement des négociations sur l'avenir institutionnel et sur les avancées obtenues par les communes.
On est plutôt satisfait au niveau de l'AFM, puisqu'on a obtenu une partie de ce que l'on demandait, même si on n'est pas encore rentré dans les détails, mais dans les grandes lignes, on a obtenu le fait que le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire restent à l'État, ce qui est un gage de bon fonctionnement pour nos communes. Et puis on a obtenu que les communes demeurent des collectivités de la République, et ça veut dire qu'on va sauver notre financement d'État. La DGF qui représente 30% de nos budgets de fonctionnement, donc c'est quelque chose de très important pour nous. Et puis on continuera à défendre les positions de l'AFM concernant plus de compétences et plus de financement pour les communes. Et ça, ce sera au moment de la préparation de la loi fondamentale.
Le président de l'Association française des maires confirme par ailleurs l'invitation au comité de rédaction envoyé aux signataires par Manuel Valls.
J'ai moi-même reçu un courrier en tant que signataire de la part du ministre Valls dans la nuit, qui m'invite à participer à un comité de rédaction pour préparer tous les textes qui seront nécessaires à la mise en place de l'accord et qui nous indique qu'au mois de février sera organisée une consultation parce que ce sont les Calédoniens qui doivent se prononcer sur l'accord ou non.
Dans ce courrier, le ministre des Outre-mer confirme son souhait d'ouvrir une nouvelle étape de dialogue et d'engagement commun et il propose la mise en place d'un comité de rédaction pour co-construire les textes appelés à traduire l'accord. Il indique qu'il présidera lui-même ce comité de rédaction qui se réunira dans la seconde quinzaine du mois d'août pour examiner les projets de loi constitutionnelle et organique. Le ministre confirme par ailleurs la suite du calendrier. Le projet de loi organique sera examiné dès le mois de septembre pour reporter les élections provinciales. La modification constitutionnelle est prévue à l'automne et le projet d'accord sera soumis au vote des Calédoniens en février 2026. Manuel Valls réaffirme également sa détermination à poursuivre un travail étroit avec toutes les délégations en bilatéral comme en plénière.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Le rejet par l'Union Calédonienne du document signé à Bougival remet-il en cause, selon vous, le projet d'accord? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, 88% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la situation de la Nouvelle-Calédonie justifie la politique de rigueur mise en œuvre par le gouvernement. Ils sont 12% à ne pas être de cet avis. L'actualité judiciaire et deux jeunes en comparution immédiate ce matin dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de l'usine Plastinor à Pointe-Boute, Léo Fichou.
Les faits remontent dans la nuit du 19 au 20 juillet dernier. Un feu s'était propagé dans les locaux de la société spécialisée dans l'arrosage et l'irrigation. Ce soir-là, les auteurs présumés des faits, âgés de 18 et 19 ans, s'étaient introduits en brisant la porte vitrée du local servant d'espace de vente. Après avoir cassé plusieurs objets dans les rayons, l'un d'eux emportait un écran d'ordinateur, tandis que le second mettait le feu à une bande de papier avant de prendre la fuite. L'incendie s'est très vite propagé à l'espace de vente ainsi qu'au bureau. L'intervention rapide des pompiers a permis d'éviter que le feu n'atteigne le bâtiment industriel attenant. Le préjudice matériel n'a pas encore été établi, mais les dégâts sont d'une grande ampleur pour la société Plastinor. L'un des auteurs présumés avait diffusé une vidéo sur un réseau social. La voix et la tenue vestimentaire des jeunes ont permis à un témoin de les identifier. L'un des mis en cause a reconnu son implication, tandis que le second indique qu'il ne se souvient pas de la scène. Les deux jeunes sont donc présentés ce vendredi devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une comparution immédiate. Ils devront répondre pour les deux délits suivants: un vol de matériel informatique commis par effraction dans un lieu d'entrepôt et en réunion, mais aussi la destruction volontaire par incendie des locaux de l'entreprise. Pour ces faits, la peine maximale encourue est de 10 ans d'emprisonnement ainsi qu'une lourde amende.
Et il n'y aura pas de relâchement de la gendarmerie, nous a dit le général Aouchine. Le nouveau commandant de la gendarmerie en Calédonie était en direct dans notre journal hier soir à 17h45. Il a rappelé la détermination des gendarmes à lutter contre la délinquance sous toutes ses formes et il a évoqué le dossier des évadés de Koné. 4 des 5 évadés ont été repris.
L'évasion d'un centre de détention, c'est un acte particulièrement grave que la justice suit de très très près. Donc là, clairement, la gendarmerie est dans sa mission de retrouver des délinquants, pour ne pas dire des criminels. La gendarmerie mobilisait toutes les unités de gendarmerie, du gendarme territorial jusqu'au GIGN, ont été engagées. Et c'est la conséquence ou la combinaison de ces différents effets qui ne se sont pas additionnés mais multipliés. Et puis enfin, je voudrais dire aussi, et ce n'est pas un poncif, je tiens à le dire à la population, la gendarmerie est là pour protéger tout les Calédoniens face aux inquiétudes actuelles qui sont légitimes. Donc nous devons être présents, nous devons être visibles pour tous les Calédoniens.
L'un des 5 évadés de Koné n'a pas encore été retrouvé. Le général Aouchine assure que sa traque se poursuit et que face à la délinquance, quelle qu'elle soit, la gendarmerie ne renoncera pas.
Je suis un homme de bienveillance, mais je suis aussi un homme de fermeté. Et la délinquance, non. Clairement, non. Donc nous en recherchons encore un évadé. Je lui conseille fermement de se rendre, vraiment, parce que je peux vous assurer qu'à l'heure d'aujourd'hui, sa photo est diffusée dans toutes les unités et patrouilles de gendarmerie de Nouvelle-Calédonie. Et on ne lâchera pas. Et on ne lâchera rien. Il n'y aura pas de renoncement avec la gendarmerie pour la sécurité de tous les Calédoniens.
Le général Aouchine, nouveau commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, en direct hier soir dans notre journal de 17h45. Et l'actualité de la sécurité publique, c'est aussi l'inauguration à Dumbéa du nouvel hôtel de la police municipale. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce matin, cérémonie à laquelle vous avez assisté, Nicolas Legrand.
Oui, effectivement, et la visite de ce nouvel hôtel de police de Dumbéa se poursuit actuellement en présence des officiels et des personnels de cette police municipale. Le nouvel hôtel de police est situé à Dumbéa Centre, c'est-à-dire à proximité du lycée d'Ipukewe, mais aussi du cinéma, un lieu stratégique d'implantation pour garantir la réactivité des différentes brigades. C'est un projet vieux de 5 ans qui s'est rapidement accéléré l'année dernière, puisque la police devait déménager, mais l'hôtel de police, vous le savez, a été incendié en 2024. Il fallait donc déménager très vite, puisqu'entre-temps, les équipes ont dû être accueillies au sein de l'hôtel de ville, ce qui n'était absolument pas pratique pour réaliser les différentes missions. Il y a donc aujourd'hui 44 agents de police qui sont dans ce nouvel hôtel de police, avec toutes les brigades qui sont réunies, une brigade du jour, une brigade de VTT. Il y a 2 brigades de roulement également, la brigade administrative, la brigade de surveillance urbaine. Il y a également des agents cynophiles. Et puis, des véhicules ont également été mis à disposition pour équiper cette police municipale qui travaille également conjointement avec la gendarmerie. Le commissaire Jacques Billan l'a dit, la sécurité, c'est la première des libertés. Il annonce effectivement que la priorité de l'État, c'est bien de garantir la sécurité à tous les administrés de la commune notamment. Le maire, Johan Lecourieux, a lui aussi salué le travail de la police municipale, cette police de proximité qui permet d'aller au contact et qui connaît le terrain et qui, appuyé par la gendarmerie, permet d'avoir une efficacité sur la zone. La visite se poursuit actuellement. C'est un investissement de 550 millions de francs pour la commune qui a pu être réalisé grâce à un soutien très important de l'État, mais aussi de la province sud. L'État qui a financé une bonne partie de cet hôtel de police et qui a également financé la déconstruction de l'ancien hôtel de police à hauteur de 32 millions de francs. Et puis, il y a une contribution sur fonds propres également de la commune. Il y a également un important volet sur la vidéosurveillance. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Adam Béa, Nicolas Legrand, RRB.
En bref, ce nouvel appel à la vigilance de l'OPT face à une campagne de SMS frauduleux, campagne de phishing actuellement en cours en Nouvelle-Calédonie avec des SMS prétendant provenir du service administratif de la Polynésie française. C'est évidemment une arnaque pour tenter de collecter vos données personnelles ou bancaires. Alors si vous recevez ce message, ne cliquez surtout pas sur le lien et ne partagez jamais vos informations personnelles et bancaires. Les conseils utiles sont à retrouver sur le site centrecyberpacifique.nc. Et puis l'UFC Que Choisir alerte sur la présence depuis plus d'un an d'un champignon dans les ananas locaux. Champignon qui crée des taches noires à l'intérieur du fruit. L'association de consommateurs explique que l'aspect extérieur ne montre aucun signe de contamination et laisse une belle présentation du fruit. Mais lorsqu'on l'ouvre pour le consommer, la moitié de l'ananas est à jeter. Face à ce problème récurrent, l'UFC Que Choisir a décidé de saisir la profession pour trouver une solution. Et si aucune solution n'est trouvée, elle envisage d'appeler au boycott des ananas locaux. Il est 11h41. Dans un instant, c'est la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Et si assurer toute votre famille vous faisait faire des économies? Avec le pack famille de la BNC, protégez votre famille et vos biens et bénéficiez jusqu'à 50% de remise sur vos contrats habitation, auto, protection juridique et accident de la vie. La BNC, c'est l'assurance d'être bien couvert au quotidien. Banque de Nouvelle-Calédonie, siège social, 10 avenue du Maréchal Foch, RCS Nouméa 74B 047 688. Coût de connexion selon votre opérateur. En partenariat avec Alliance IARD, entreprise régie par le Code des assurances.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Christopher Gigès poursuit ses visites de terrain. Le membre du gouvernement en charge notamment du numérique était ce matin dans les locaux du groupe SIPAC à Magenta, Léo.
Il a effectivement visité dans le cadre du développement d'infrastructures de stockage de données les installations de Data Service Pacifique, une société privée du groupe SIPAC dédiée à l'hébergement de solutions informatiques. Christopher Gigès l'a confirmé, la Nouvelle-Calédonie porte l'espoir de devenir un hub de données et souhaite se positionner sur la cybersécurité, mais aussi sur l'intelligence artificielle. Et pour ça, le public et le privé doivent travailler ensemble.
De toute manière, on a besoin de travailler avec le secteur privé sur la question de la cybersécurité. C'est un vrai partage de connaissances, d'informations et d'avoir ces groupes-là qui sont en capacité d'apporter des réponses sur la cybersécurité. Un, pour protéger les attaques, c'est ce qu'on a pu indiquer hier avec une réunion à la station N, mais c'est aussi une filière sur laquelle on a des nouveaux emplois et on a besoin d'avoir des nouveaux emplois qui se créent sur le territoire. Et donc d'avoir des privés qui vont plus vite que le public, ça fait du bien.
Alors, à l'heure actuelle, Data Service Pacifique héberge plus de 500 sites internet calédoniens et compte plus de 160 clients sur le territoire. Une activité essentielle, selon Pierre Massenet, le directeur général du groupe SIPAC, explique que la Nouvelle-Calédonie n'a pas à rougir des autres pays dans le domaine.
On a des infrastructures qui sont petites en taille parce qu'on se sent adapté au marché. Par contre, en termes de technologie, en termes de compétences, effectivement, on n'a pas à rougir puisqu'on a des installations de classe mondiale qui permettent aujourd'hui, à nos clients, professionnels notamment, de protéger un patrimoine très important pour chaque entreprise qui est sa donnée, que ce soit pour sa continuité d'exploitation, que ce soit son fonds de commerce. Voilà, on sécurise ces données, on met à disposition les ressources nécessaires de calcul, par exemple, pour qu'elles puissent effectuer leurs opérations quotidiennes comme des opérations spécifiques. Donc on apporte cette infrastructure nécessaire, essentielle au numérique, qui lui-même est essentiel à l'économie. Demain, vous n'avez plus d'informatique, vous n'avez plus de business, vous n'avez plus de service client, la Calédonie peut s'arrêter.
Et toujours dans le cadre du développement numérique, je rappelle que Christopher Gigès a participé hier matin au forum consacré à la cybersécurité organisé par le Centre Cyber du Pacifique à la station N.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 11h44.
Un mouvement d'humeur ce matin de certains élèves du lycée Jules Garnier. À l'initiative des jeunes lycéens, une centaine de personnes, élèves et parents d'élèves, s'est retrouvée devant les grilles de l'établissement de Nouville pour protester contre l'obligation du port de la tenue unique à partir de lundi prochain. Ygrine Wanehuachu est une maman d'élèves qui était présente ce matin.
Ils se sont concertés, ils ont fait tourner une petite pétition au sein de l'établissement qui a recueilli quand même pas mal de signatures. Ils se sont dit qu'ils allaient faire cette manifestation pour montrer à la direction du lycée qu'ils n'étaient pas d'accord en fait avec cette décision. Ils ont discuté entre eux et ils se sont rendus compte que l'uniforme n'était pas une priorité. Certains n'ont pas les moyens de se déplacer, certains ne mangent pas le midi. Vous voyez, l'uniforme, c'est vraiment le cadet de leurs soucis.
Cette manifestation à l'initiative des jeunes du lycée Jules Garnier était soutenue par l'UGPE, l'Union des groupements des parents d'élèves. Une rencontre entre les élèves, les parents d'élèves et la direction de l'établissement devait se tenir dans le courant de la matinée. Cap Horizon accueillera les étudiants demain. Cap Horizon, c'est la nouvelle formule du Salon des études supérieures organisé par l'UNC et le vice-rectorat. Nous en avons parlé ce matin avec nos deux invités à 7h30. Sylvian Raffarin-Artigues, directeur de la communication de l'UNC, est d'abord revenu sur ce changement de nom et de formule.
On s'adapte cette année, on a deux maîtres mots, c'est proximité, sobriété, puisque la conjoncture est particulière. Mais on a choisi en fait de poursuivre quand même cette formule salon sur le campus de Nouville où on retrouvera bien sûr tous les acteurs de l'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie qui sont présents sur le site. Donc cette fois, on ne le fera pas dans le gymnase, mais sur l'Agora, sur la place centrale de l'université. Donc avec toute l'offre universitaire, l'offre du vice-rectorat et puis l'offre des écoles privées qui sont présentes sur le territoire. Mais on déploie aussi le salon un peu plus dans l'intérieur et les îles. Donc on aura deux sites pour la province sud, c'est-à-dire le campus de Nouville et Bouraille. On a sur la province nord Conné et Pointe-d'Imier. Et ensuite on a Lifou en province des îles. On étend un peu plus, on rapproche en fait cette offre d'information des familles et des jeunes parce que c'est un enjeu très important de développement personnel et de développement professionnel que les jeunes puissent avoir accès à cette information relative à la poursuite d'études après le bac et dans la situation de reconstruction dans la Nouvelle-Calédonie. On a vraiment besoin que le jeune s'investisse dans les études supérieures.
Cap Horizon présente la centaine de formations post-bac dispensées sur le territoire, tant à l'UNC que dans les lycées. Les futurs étudiants pourront visiter aussi les lycées ou se voir proposer des immersions dans le supérieur avec le dispositif Cap Sud. Tout est fait pour que ces jeunes poursuivent leurs études, explique Valérie Poirmeur, déléguée académique à l'information, à l'orientation et à la persévérance scolaire au vice-rectorat.
Quand on se projette dans un monde incertain, tel que les événements de 2024, les jeunes et les familles ne sont pas projetés de la même façon qu'en 2023. Donc l'impact sur le choix des formations est toujours important. À nous de savoir rassurer, de savoir changer aussi. C'est pour ça que les formations avec la carte de formation évoluent, répondent aux questions du monde. Donc nous, nos cartes cette année évoluent moins que celles de l'UNC. Puis il y a des années où c'est différent. Au nom du vice-rectorat, on va présenter ce qui est classe préparatoire et majoritairement des BTS. On est sur un territoire où la voie professionnelle est importante et correspond aussi à l'emploi. C'est tout ce travail d'amener le jeune à pouvoir avoir une présentation de nombreuses choses, avoir aussi des pairs qui leur parlent de ce qu'ils ont vécu, parce que rentrer en amphithéâtre, c'est pas la même chose que rentrer dans une salle de cours. Et puis après, ils vont rentrer dans l'étape concrète de décider. Et ça, c'est Parcoursup.
Cap Horizon sera donc demain sur le campus de Nouville de 9h à 17h, mais aussi de 8h à 11h30 au marché municipal de Bouraille, au centre Théarie de Conné, au kiosque du marché de Pointe-d'Imier et devant le magasin Corail de Lifou. L'actualité dans la région, le FBI va ouvrir un bureau permanent de police judiciaire en Nouvelle-Zélande. L'annonce a été faite par le directeur du FBI lui-même, Kash Patel, qui vient d'effectuer une discrète visite à Wellington, Jean-Pierre Zajac.
Kash Patel a indiqué avoir eu des entretiens très productifs avec plusieurs ministres du gouvernement néo-zélandais, dont celui des Affaires étrangères, Winston Peters, de l'Intérieur, Mark Mitchell, et de la Défense, Judith Collins. Il a également rencontré les directeurs de nombreux services spécialisés dans la collecte et le traitement des informations à caractère stratégique. Il a surtout profité de son voyage à Wellington pour y ouvrir ce qu'il a appelé un bureau permanent du FBI. Celui-ci aura pour mission principale, je cite Kash Patel, de renforcer et améliorer sa coopération avec un partenaire clé des États-Unis dans la région. Notre intention est aussi de lutter contre l'influence de la Chine dans le Pacifique, a-t-il ajouté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h50, une nouvelle pause dans ce journal et on se retrouve pour évoquer l'actualité en métropole. À tout de suite.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La foire de Bouraille est de retour les 15, 16 et 17 août. Faites votre carburant dans les stations Shell et Pacifique pour tenter de gagner un Toyota Hilux spécial foire de Bouraille. Urne et tirage au sort à la foire le 17 août. N'oubliez pas de remplir votre bulletin de participation.
Vous déménagez? Vous cherchez un bon plan? En famille, en coloc ou avec votre chat? Découvrez l'offre Easy Start avec Lagoon. Internet illimité, modem inclus, téléphonie VOIP, le tout sans engagement. Et en ce moment, jusqu'à 5 mois offerts pour les nouveaux abonnés. Avec Lagoon, vous posez vos cartons et on s'occupe du reste. En plus, jusqu'au 31 août, tentez aussi de gagner une Nintendo Switch 2 en jouant directement sur notre page Facebook. A très vite en boutique. Offre soumise à condition.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Baudin.
Le cas de la jeune Gazaoui de 25 ans, arrivée en métropole pour intégrer Sciences Po Lille au début du mois, continue de faire réagir. Le parquet de Lille a ouvert une enquête à son encontre pour apologie du terrorisme, apologie de crimes contre l'humanité, avec utilisation d'un service de communication au public en ligne. Elle avait publié sur les réseaux sociaux des propos violemment antisémites en faisant notamment l'apologie d'Hitler et en appelant à tuer des juifs. De nombreuses voix s'élèvent pour dire que la jeune femme avait vocation à quitter le territoire français, y compris au ministère des Affaires étrangères, qui a pourtant validé la bourse que lui avait accordée le consulat français de Jérusalem. Les choses ne sont donc pas si simples, explique Arthur Delaborde pour Europe 1.
Dans l'immédiat, elle ne partira pas. Elle sera toujours présente en France demain et après-demain. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, elle peut prétendre au statut de réfugié accordé par l'OFPRA, l'Office de protection des réfugiés, car tout Gazaoui arrivant en France peut bénéficier de ce statut en raison de sa nationalité. C'est son cas, puisqu'elle dispose d'une carte d'identité palestinienne. Conséquence, elle ne peut pas être expulsée le temps de la demande, une démarche qui peut prendre plusieurs semaines. Et en attendant, eh bien, cette étudiante va continuer de percevoir sa bourse accordée par le consulat de France à Jérusalem, puisque le Quai d'Orsay lui a délivré un visa étudiant. Et tant que ce visa n'est pas retiré, elle touchera environ 900 euros net par mois financés par les contribuables français, sans compter les aides prévues pour les réfugiés comme l'aide au logement. Et si son inscription à Sciences Po Lille a été annulée, rien ne l'empêchera de faire sa rentrée dans un autre établissement.
À propos du dossier palestinien, Emmanuel Macron a annoncé que la France, vous le savez, allait reconnaître l'État palestinien au mois de septembre prochain lors de l'Assemblée générale de l'ONU. La France a depuis été suivie par la Grande-Bretagne et rejointe par le Portugal qui vient également d'annoncer qu'elle ferait la même démarche. Un accident heureusement rare en Corse, à Ajaccio. Un petit train de touristes s'est violemment renversé sur un rond-point avec 58 passagers à son bord. Le choc a été violent et 4 personnes sont toujours en urgence absolue, dont un enfant de 5 ans. Plusieurs témoins ont parlé d'une vitesse excessive, mais le maire d'Ajaccio, Stéphane Pradgia, reste prudent.
Il semblerait en fait que le train ait pris un itinéraire qui n'était pas prévu. Il a tourné un rond-point qui n'était pas le parcours usuel de ce petit train. Et visiblement, il y a eu un effet de bascule qui a fait que le train s'est renversé. Je crois que c'est le dernier wagon qui a fait vriller, on va dire, l'ensemble du véhicule. Et ça s'est renversé. Donc, c'est très surprenant. Là, il y a une enquête en cours, donc on en saura plus ces prochaines heures.
Le conducteur de ce petit train, âgé de 70 ans, a été placé en garde à vue. 70 pompiers ont été mobilisés, 4 médecins et 25 personnels du SMUR. Le plan blanc a même été déclenché à l'hôpital d'Ajaccio. Outre les personnes en urgence absolue, 14 autres sont en effet en urgence relative. Et puis, autre fait divers dans l'Hérault, où une assistante de maternelle a été mise en examen et écrouée. Cette femme de 59 ans est accusée de viol et d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Elle aurait maltraité 9 enfants âgés de 3 à 4 ans. 2 familles ont porté plainte. Ce drame pose la question du profil des professionnels recrutés dans ce secteur. Il n'est pas assez pris en compte et scruté, estime Angèle Lefranc, chargée de plaidoyer à la Fondation de l'Enfance.
Aujourd'hui, ce contrôle d'honorabilité, il n'est pas rendu obligatoire dans les établissements scolaires. Une demande majeure qu'on a à la Fondation pour l'Enfance, c'est vraiment de généraliser, d'obliger ce contrôle d'honorabilité de tous les professionnels qui sont susceptibles d'être en contact avec des enfants.
Le contrat d'honorabilité est obligatoire dans 9 départements, mais pas dans l'Hérault, où le drame s'est produit. Il est 11h54, la dernière pause de ce journal avant l'actualité sportive. Nous partirons dans les bassins de natation de Singapour. A tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Du Causse-Quincaillerie est à Bouray. Découvrez Bouray Bricolage. Sur plus de 300 mètres carrés, des milliers de références, une équipe locale et des offres promotionnelles. Rendez-vous en magasin ou appelez le 322-332.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et donc la natation avec cette nouvelle médaille d'or, Lionel Sabot pour l'équipe de France qui participe en ce moment au championnat du monde à Singapour. Léon Marchand a remporté hier soir son 6e titre mondial.
Oui, après avoir largement battu le record du monde du 200 mètres 4 nages, Léon Marchand a décroché sans grande surprise, sans grande difficulté, le titre mondial sur cette distance. Une finale toutefois un tout petit peu plus compliquée pour le quadruple champion olympique qui s'est imposé devant l'Américain Shen Casas et le Hongrois Hubert Kos. Écoutez Léon Marchand.
Franchement, c'était une course géniale. Pour moi, c'était très difficile comme course. J'étais un peu plus crispé qu'hier, plus de pression, je pense. Je vois que je me suis amélioré dans certains nages, j'ai amélioré ma technique aussi.
Léon Marchand qui sera de nouveau dans les bassins demain si le relais 4x 200 mètres nage libre est en finale. Léon Marchand qui disputera également évidemment le 400 mètres 4 nages. Autre résultat et pas de nouvelle médaille pour le Calédonien Maxime Grousset. Hier soir, toujours, Maxime s'est classé 7e de la finale du 100 mètres nage libre. C'est le Roumain David Popovici qui s'est imposé en établissant au passage un nouveau record d'Europe de la distance. Popovici qui s'est imposé devant l'Américain Alexis et l'Australien Chalmers. Quant à Maxime Grousset, il défendra son titre sur le 100 mètres papillon cet après-midi, disputera sa série à 13h20. Il sera également dans le bassin à 14h16, va enchaîner les courses dans la 11e série du 50 mètres nage libre.
On parle cyclisme maintenant avec la 6e étape du Tour de France Dames, une étape de 124 km entre Clermont-Ferrand et Ambert. C'est une Française qui s'est imposée dans le Puy-de-Dôme.
En effet, Maëva Skiban a remporté en solitaire cette 6e étape. Elle a devancé d'un peu plus d'une minute une autre Française, Juliette Labousse, et la Mauricienne Kim Lecourt, qui a réglé le sprint d'un groupe où figuraient les favorites pour le classement général. À 23 ans, Maëva Skiban a attaqué dans la toute dernière difficulté du jour le col de Chancère à 30 bornes de la ligne d'arrivée, alors qu'elle faisait partie d'un groupe d'une douzaine de coureuses. Excellente descendeuse, elle a très rapidement pris une minute d'avance sur ses adversaires qui ne l'ont jamais revue. Au classement général, Kim Lecourt reste en tête et conserve bien évidemment son maillot jaune de leader. Elle possède 26 secondes d'avance sur la Française Pauline Ferrand à Prévost. La suite de ce Tour de France Dames, c'est la nuit prochaine. 7e étape, 159 km 700 entre Bourg-en-Bresse et Chambéry. Et le sommet de la principale difficulté du jour, le col du Granier, sera situé à 17 km de l'arrivée.
Il est 11h58, une nouvelle pause avant de retrouver dans un instant le magazine Transparence. Comme tous les vendredis, je vous rappelle qu'aujourd'hui, Elisabeth Moore reçoit Alcide Ponga, président du gouvernement, mais aussi président du Rassemblement.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Suivront l'appel à candidature fin septembre pour une finale.